Merci beaucoup. On a entendu le sax de Masto. Masto n'est pas là parmi nous, mais on a, heureusement, grâce à Voto, un épisode spécial, c'est ça ? Eh bien, je te passe la parole.
Bonjour tout le monde. Juste une petite pensée pour Fuck qui est mort le mois dernier. Ça va parler à pas mal de punk ici. Et aussi à Alain Manval qui m'a fait le plaisir de me faire rencontrer Iggy Pop dans les locaux d'Europe 1 lors de son émission Pogo. Voilà, il est mort hier, je crois. Avec Pind, nous réalisons une série de portraits intimes d'anciens intervenants du mouvement punk que l'on a nommé Punk Fan Club. Ce nom est un clin d'œil à la Raya Fan Club de la Souris Déglinguée. Dans cette série de portraits intimes que vous pouvez retrouver sur YouTube, il est question de revisiter l'enfance pour se remémorer ses premières écoles buissonnières. Il est question de comprendre pourquoi on se détache de sa famille pour rejoindre l'obédience punk. Il est question de comprendre comment l'on glisse de l'autre côté de la marge pour ensuite réaliser les séquelles du punk rock dans la maturité du présent. Punk Fan Club donne la parole aux musiciens du mouvement, mais aussi aux autres, ceux des rues et de la fosse. Ceux que des proches définissaient pour rire comme des sordides crétins boutonneux boursouflés d'insignifiance. Des débris humains de 20 ans, les cheveux et le foie teints en vert pour les abus d'alcool et les fines herbes. Des handicapés mentaux dont la poésie de fond de poubelle oscillait périlleusement entre le brandouillis parkinsonien et la vomissure nauséeuse. C'est vrai. Chaque témoignage de Punk Fan Club nous éclaire sur un contexte précis. On comprend comment Laurent Desberru devient porte-parole rassembleur, comment Chester installe sa carrière dans le graphisme, pourquoi Michel de la Miroiterie se promène dans les catacombes et comment Gangster appréhende de rejoindre le mouvement à cause de la couleur de sa peau. Pour cette journée autour des Berrues, je suis ravi de vous proposer un portrait de Masto, le troisième Berru, dont on parle pas mal en ce moment. C'est un ami fascinant de toujours, un poète de la Raya, l'insaisissable berrurier. Ses proches vous le diront, Masto est un oiseau. Si vous tournez la tête une seconde, il s'est déjà envolé. Il est actuellement dans un avion pour rejoindre sa Corse. Dans les années 80, quand je lui demandais s'il avait passé une bonne soirée, il me répondait qu'il ne perdait jamais de temps à évoquer le passé. L'année dernière, quand je lui ai demandé s'il voulait témoigner, il m'a répondu que j'allais perdre mon temps, car il n'avait rien à dire. Je l'ai convaincu quand même que cela pourrait être intéressant. Voici donc son témoignage, et à mon avis, en ne disant rien, il en dit plus que les autres.
Bonjour, je m'appelle Masto. Souffleur, mais il dit rien.
Piu-piu.
Eh ben, tu sers à rien. Ouais, ben, c'est ça qui est bien. Eh ben, voilà. Il sert à rien et c'est ça qui est bien. Faut pas se leurrer. Pensez. Il y a des pauvres gens, ils croient qu'ils ont une mission. Quand on observe une mouche, notre temps, on est des espèces de mimes ou ralentis pour une mouche, par rapport à son rythme à elle et à son déroulement du temps à elle, à sa conscience du temps à elle. C'est absolument pas notre vision qui doit prédominer. Sois libre. Il n'y a pas plus facho que ça, quoi. Donc, pas du tout. C'est terroriste comme phrase. Le maître mot de tout, c'est la liberté. C'est-à-dire être ouvert, curieux, jamais croire, toujours tout remettre en question, pas porter de jugement, comprendre, chercher, choisir. Oh, le passé, hein, quelle merde. Donc maintenant, je vais me coller à ma mission et tenter de répondre à la question. Je J'ai consciencieusement tout oublié jusqu'à l'âge de 13 ans. J'ai eu peu de moments où j'avais cette présence naturelle au présent d'un enfant. Voilà. Il y avait une sorte de porte-à-faux, d'arrière-pensée, de malaise, de mal à l'aise, de chahutage intérieur quasiment permanent, quoi. À 13 ans, je me suis parti, donc j'ai commencé à habiter tout seul. Bon, c'est pas, je suis pas parti en claquant la porte. Voilà, il y avait un plan, il y avait une chambre de libre. Enfin, donc c'était quand même confortable, quoi. Hein, j'étais pas dans la rue. D'un seul coup, je me suis un peu réveillé au monde. D'un coup, j'ai découvert. Je regardais les gens différemment. J'essayais de me placer. J'ai découvert la nuit. L'amour, le des plaisirs personnels, des sensations, et je m'ouvrais à ça. C'est un peu comme si tu nais à 13 ans, quoi. Tu vois, donc t'es pas un bébé, donc t'as pas le cursus normal. T'as déjà un grand corps maladroit et tout, mais tout est nouveau. Ce que tu vois, ce que tu ressens, l'interaction. Et puis ma vie, elle a commencé là, hein, disons. Au début de ces années-là, pendant je sais pas combien de temps, 5-6 ans, j'ai rencontré plein de gens, mais c'était plus dans la... C'était très excitant, mais c'était de la délinquance, quoi. J'étais tellement largué que tout ce que je prenais jusqu'à 18-19 ans, c'était des évidences, que ça soit des coups paternels, que ça soit le monde comme il était, mon mal-être, tout ça, c'était des évidences, quoi, que j'avais pas idée de remettre en question. J'ai commencé à 17 ans à travailler en photo. Donc, il se trouve que peut-être par mes racines, mes origines ou quoi, j'ai quelque chose d'assez technique, perfectionniste, qui fait que j'ai vite trouvé une place et du travail en photo. J'ai toujours été lié au visuel quand j'étais petit, toujours. Donc j'ai été aussi éduqué à ça, j'ai eu une grosse... J'allais voir des expos toutes les semaines, il y avait des œuvres d'art chez nous, enfin voilà, j'ai eu une éducation artistique assez conséquente. J'ai un grand-père aussi qui était dans l'histoire de la famille, qui est allemand et qui a caché beaucoup d'œuvres d'expressionnistes allemands pour que ce ne soit pas détruit par les nazis de l'époque et tout ça. Enfin, je suis un curieux, hein, je veux mourir curieux, tu vois, c'est la seule chose qui m'importe. Quand ça a commencé pour moi, c'était encore dans une période là où je traînais d'une école à l'autre et tout ça, où il y a eu le début de ces trucs que bon, quoi. Là, c'est sûr, il y a eu une espèce d'excitation collective autour de ça, autour de découvertes musicales, de musique qui nous mettait dans des états. C'était là. C'est pas que j'avais jamais écouté de musique qui m'éclatait avant, c'est pas vrai, mais là, elle nous appartenait, celle-là. C'était la nôtre. Il y avait une joie d'exister, une joie d'être avec ces gens, une joie de... La vie était frémissante, excitante et... Il y avait des rapports humains qui se créaient, qui étaient chouettes. Et c'était nouveau, si tu veux, tu vois. Voilà, cette excitation et d'être dans la rue et de commencer à marcher à plusieurs. Et la différence et de s'habiller comme ci, comme ça. Et les peurs aussi qui nourrissaient beaucoup l'excitation. C'était juste... se retrouver, être ensemble, effrayer, y aller à droite et dans des galeries et des trucs et les machins. Et les mobs et les courses et des délires de art, artistique, genre de faire des œuvres d'art avec les extincteurs. Je pense que les cupons, ils avaient cette fonction-là sociale, d'être une sorte de miroir des autres dans la rue, d'où le dégoût et la colère et le rejet profond qu'ils provoquaient. C'est un petit peu... Et je trouve que c'est important. Il est important, ce miroir, voilà. Alors les gens, évidemment, ils te montrent du doigt, mais quand ils te montrent du doigt, c'est eux-mêmes qui... Ils se montrent du doigt eux-mêmes. T'enlèves le fou du village, ben, il n'a plus de centre, le village. Et les gens vont commencer à se retourner, à se perdre en pensant que qu'en écrasant les autres, ils iront un peu plus haut, alors que tout le monde s'enfonce. Et voilà, c'est des personnages importants. Et je trouve qu'il y avait un côté comme ça chez les Cupons. Je traînais depuis un an au moins avec LOL. Lui, il était soi-disant dans une espèce d'école d'art pas loin. Enfin bref, on se retrouvait, on passait nos journées ensemble. Ça commençait, il y avait déjà pas mal de petits groupes qui existaient et tout ça. Donc on trouvait sa classe. Donc nous, on a fait notre groupe. Lucrate Mule, seulement on jouait pas. Puis on n'a même pas pensé à jouer. Donc on taguait Lucrate Mule partout. Voilà, c'était classe parce que le logo, il était hyper beau. Il y avait deux sortes d'humains. Il y avait ceux qui savaient écrire le Lucrate Mule et ceux qui ne savaient pas. Voilà où on en était. Hein. C'est très nombriliste. Hein. C'est piteux. Hein. Et bref, et c'est au bout d'un an qu'on taguait le Lucrate Mule qu'on a croisé un mec qui nous a dit qu'il les avait vus en concert et que c'était des mans et tout ça. Oh, on s'est regardé avec LOL, on avait quand même un peu les boules. Et on s'est dit, bon, bah ok, on va être obligé de jouer, quoi. Lui, il avait repéré une super meuf aux Arts Déco. Il a dit, oui, vous êtes des connards, c'est d'accord. Et voilà, donc c'était Nina. Et après, on a branché Gabo, avec qui on était déjà potes, pour faire la batterie, parce qu'il nous fallait un batteur. On n'avait pas vraiment de recul. Les moments de concert, c'est des grands moments d'absence, en fait. Hein. On était complètement déchirés, quoi. Donc... On aimait beaucoup Crass, par exemple. Et c'est vrai que là, on sentait, on vivait une petite communauté musicale par rapport à certains morceaux. Il y a plein de gens qui supportaient pas, qui disaient que c'était de la merde et tout ça, puis des gens qui trouvaient ça dément et tout, et qui s'embrouillaient et tout. Donc c'était assez jouissif. Ben voilà, on n'est pas des clones, on n'est pas là pour faire la même musique que les autres et avoir la même panoplie. Et si on arrive à choquer les punks, c'est top, quoi. Avant tout, on était une famille. On était, je sais pas, entre 200 et 300, la Raya. Et tout le monde était là à chaque concert et au concert d'autres groupes aussi, parce que ces 200, 300 faisaient tous des groupes aussi, ou presque. Et il y avait cette joie collective et on s'aimait, on en étouffait les uns pour les autres et on s'éclatait ensemble. Donc c'était avant tout ce troupeau-là qui nous portait, qui est des concerts, qui n'en est pas, peu importe, c'était la même chose. C'était notre vie ensemble. Qu'on soit dans un commissariat, dans un squat, dans des trottoirs, dans un sac de colle, peu importe ce qu'on faisait, ou sur scène, ça changeait rien. On était ensemble et on se marrait, quoi. On mettait tout ce qu'on pouvait, nous, dans les pochettes et tout ça, on s'éclatait de partout. C'est des beaux objets, ces 45 tours. Ils sont super beaux. C'est pas juste le support son, quoi. C'était vraiment un objet. Et c'était classe. C'était un truc très explosif, et puis voilà, c'est éphémère et c'est bien comme ça, point, voilà. Et on s'est pas beaucoup posé de questions, on s'est arrêté, et puis basta, quoi. Voilà. C'est très bien, ça aurait pu durer une demi-heure, Lucrate, hein, ça aurait été aussi bien. Hein. Tu vois, c'était bon, voilà, c'est une demi-heure qui a duré 3 ans, et c'est une grosse demi-heure, voilà, c'est tout. Hein, c'est... Les Bérus, ça a commencé pendant Lucrate. Donc il n'y avait aucun lien entre le fait qu'on arrête et l'existence des Bérus. Les Bérus, c'était des gens comme qui faisait partie de ces 200-300 personnes dont je te parlais, qui tournaient, où tout le monde faisait des groupes et tout ça. Bon, eux, ils étaient un petit peu en... François, il était un peu en marge dans une petite raya qui était dans le 13e, qui était peut-être plus... qui avait peut-être plus de conscience et d'activité artistique et engagée. Mais voilà, c'était nos amis. Ça s'est fait naturellement, quoi. Ils m'ont demandé, ou je sais pas, ou je me suis retrouvé à jouer avec eux. Donc il y a les premiers morceaux, Bûcheron, J'ai peur, et qu'on jouait ensemble. À cette époque-là, voilà, on répétait. Je vois le local, un espèce de truc en bois. Je sais même plus où c'est. Et ça s'est fait tout seul, normalement, comme les choses se faisaient à cette époque-là, quoi, sans grande question, sans décision. Et de tout ça, il reste pas grand-chose, il reste Noir les horreurs du premier album. Voilà, c'est la seule trace, mais c'est pas n'importe quoi comme trace. C'est un morceau émouvant. Moi, ce que j'ai fait avec les Bérus au début, en fait, on a fait quelques concerts, on était trois. Il n'y avait pas LOL et Elno et tout ça. C'était avant. Et puis, après, on s'est engueulé avec les Bérus, donc moi, je suis parti. Et je pense qu'ils ont dû arriver à ce moment-là, et c'est peut-être là qu'il y a commencé à avoir ce folklore autour des Bérus. Mais sur cette période-là, j'y étais pas. Et je suis revenu, pour le coup, ils sont venus me chercher en 85 ou fin 85 ou un truc comme ça. Et là, je suis retourné dans les Bérus. Et là, il y avait les Titi et tout le tralala, quoi. Ça voulait dire retrouver les potes et repartir sur la route et me marrer. Donc j'étais complètement partant. Voilà, c'est tout. Tu sais, nous, notre quotidien, on était en bétaillère, sans fenêtre, à dormir dans le vomi, tous les week-ends, à faire des milliers de bornes en bétaillère, et c'est tout, quoi. Et après, on jouait, on était plus ou moins, parfois super bien reçus, parfois c'était énervant. Et on donnait tout ce qu'on pouvait parce que c'était notre façon d'être heureux. Après, on s'est retrouvés dans certains embarras sur des situations qu'il fallait assurer sur le coup, que ça soit une embrouille de keuf, une embrouille de skin, une embrouille de 3000 personnes dehors qui peuvent pas rentrer. Ben, je le vivais au mieux que je pouvais, c'est-à-dire c'était un petit peu compliqué parce que j'avais déjà des enfants. Donc là, parfois, c'était... ça amenait une espèce de fatigue où c'était un petit peu frustrant. On fédérait des choses positives. Et ça, c'était très agréable et très motivant. Et quand il y avait des petites faiblesses par rapport à nos conditions de tournée, ça rattrapait largement le coup de savoir qu'il y a des gens qui, au lieu de se faire un shoot, ils prenaient un stylo, ils faisaient un fanzine, tu vois. Et puis petit à petit, avec les moyens qu'on a eus, on a quand même pallié à certains problèmes qui nous semblaient prioritaires. Donc notamment dans l'organisation des concerts, toutes les questions de service d'ordre. Donc voilà, on a eu la chance de pouvoir s'occuper nous-mêmes et d'imposer notre service d'ordre. C'était le nôtre et les gens pouvaient monter sur scène, il n'y avait plus de barrière, il y avait une liberté, le brassage pouvait se faire autant qu'on voulait et c'était la teuf. Disons que on s'est retrouvés à trois en noyau dur parce qu'on était trois à faire de la musique. On était trois à répéter, ou soi-disant, à aller au local de répétition. On était trois à aller en studio, à enregistrer les disques. On était trois à s'occuper du groupe sur tous ses autres aspects, enfin... Les rapports pour la production des disques, enfin voilà, donc on et la troupe, on la retrouvait, et le SO, c'est des gens qu'on retrouvait pour les concerts, et parfois en studio pour des séances de chœur. Bon, franchement, ça a été très, très dur. Ça a été... En gros, on a mis, on a consciencieusement dit au revoir pendant au moins un an et demi. Donc, au début, bah, quand c'est dans un an et demi, ou quand c'est dans un an et tout ça, c'est des, pour nous, c'est l'infini, quoi, tu vois, c'est inenvisageable. Donc, tout allait bien. Donc, les concerts se passaient bien, les tournées se passaient bien. On a fait une deuxième tournée au Québec pour faire ça, c'était super. Enfin, voilà, tout était super. Et puis, ben, hein, puis un jour, on est arrivé à l'Olympia, quoi. Là, je pense que on a peu partagé sur notre douleur personnelle. Chacun a tenté sa propre survie à sa manière. Effectivement, c'était la fin du monde. Et là, on avait le ventre ouvert, quoi. C'était difficile. Je me rendais compte que ça faisait 10 ans, 15 ans que j'étais contre, anti, que je hurlais des noms et des à mort machin et à bas truc. Et je crois que j'étais en quête d'un oui dans ma vie. J'ai cherché mon oui et je l'ai trouvé, en fait, dans la nuit et la montagne. Et là, ça a été le début d'une nouvelle vie où j'ai trouvé, je pourrais dire, mon église, si... avec toute la distance. C'était pas un parti, c'était juste la nature, c'est-à-dire notre nature, c'est-à-dire nous-mêmes, réellement, quoi qu'on soit. Je me suis senti vraiment à ma place, là, au fond des prisons, depuis 10 ans. Je fais ça, je fais des ateliers de... écriture, composition, interprétation, enregistrement, et en une semaine avec un groupe on fait un album. Je voyage, je rencontre des gens, je vais dans des endroits où j'ai jamais été. Quand tu fais des photos, tu regardes pas pareil. On prend pas une photo, de toute façon, ça n'existe pas ce mot, c'est une vilaine expression française. C'est une sorte de quête, de pêche, mais on prend jamais rien, de toute façon. Hein. Et on repartira à poil.
Un grand merci pour ce petit moment avec Masto. C'est vraiment super de pouvoir partager ça aussi, être avec lui si intimement. C'est un chouette témoignage. Merci beaucoup de nous avoir fait partager ça.